Bien, ce soir nous allons donc terminer l'amillénarisme et on va essayer d'entamer le pré-millénarisme. Bien, parmi les points qui sont complètement faussés dans l'amillénarisme, il y a la relation entre le royaume et l'Église, ce qui est évidemment toujours un énorme problème. D'autant que dans le système amillénariste, donc qui nie le millénium, le royaume n'est pas considéré comme un royaume littéral, un règne au sens propre. Et ce royaume, et ça c'est une vue gnostique au départ, hein, mais qui court partout dans les milieux chrétiens, le royaume, le règne messianique, est essentiellement un règne sur le cœur des croyants. La première remarque que nous pouvons faire par rapport à cette pensée, c'est que jamais, dans aucun texte de l'Écriture, ni dans l'Ancien ni le Nouveau Testament, il n'est dit que Jésus, le Messie, est le roi de l'Église. Il est la tête, il est le chef de l'Église, jamais il n'est dit qu'il en est le roi. L'idée que le royaume est uniquement spirituel l'a toujours été, et concerne uniquement la vie spirituelle intérieure des croyants, et finalement une vue qui est totalement étrangère à l'Écriture. Et ça, on est tellement habitué à cette idée qu'on ne s'en rend même pas compte. Alors, de là, évidemment, on déduit ceci, c'est que l'aspect national n'est qu'un symbole, il faut symboliser tout, et que cela n'a rien à voir avec quelque chose qui doit passer dans la réalité. Que c'était la grande erreur des Juifs que d'avoir attendu un royaume national. Vous trouvez ça chez Augustin, bien sûr, vous trouvez ça chez Calvin, vous trouvez ça de plus en plus aujourd'hui dans les facultés de théologie, n'est-ce pas ? Et on part du texte de Jésus à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et puisqu'il n'est pas de ce monde, on conclut que son royaume ne sera jamais, finalement. Il n'y aura pas de royaume. C'est finalement à ça qu'on aboutit. Or, Jésus nous dit une chose aussi tout à fait étonnante. Il dit à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde, et pourtant ils sont dans le monde. Et Jésus le leur précise. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'ils n'appartiennent pas à la nature du monde, à la nature pécheresse et pervertie du monde. Et quand Jésus dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, il ne veut pas dire qu'il ne viendra jamais dans le monde, il veut dire qu'il est d'une autre nature que celle des royaumes de ce monde, tout simplement. Bon, un autre texte dont on fait grand cas aussi pour essayer de démontrer que le royaume n'est que spirituel, c'est le texte où Jésus dit « Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume est au-dedans de vous. » Et ça, c'est une traduction qu'on trouve souvent dans les textes, mais qui est une fausse traduction. « Est au-dedans de vous », ça veut dire « Il est dans les cœurs, il est dans le cachet, il ne se manifeste pas d'une manière visible, etc. etc. » Bon. Là, évidemment, on est aux antipodes du post-millénarisme, qui, lui, au contraire, avec le système catholique, par exemple, cherche à créer un royaume très terrestre, finalement. Mais là, au contraire, on est dans une spiritualisation très grande, qui est finalement une spiritualisation de type gnostique, qu'on trouve dans les premiers siècles de l'Église, et qui est dénoncée déjà dans l'Épître aux Colossiens comme étant une hérésie. Or, ce que Jésus veut dire, d'abord, quand on retraduit en hébreu, c'est « Malchut HaShamayim Bekir Bechem ». Parmi vous, c'est pas en dedans de vous, c'est parmi vous. C'est déjà très différent. Parmi vous, ça veut dire, ben oui, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, parmi vous, dans la personne de son roi, dans la personne de Jésus. Le royaume, il est là. C'est pas à vous de l'accepter ou à vous de le refuser. Il est à portée de main. C'est ça que Jésus veut dire. Mais non pas qu'il est là, quelque chose de mystérieux dans les cœurs qu'on ne voit pas. Bon, le royaume est en vous, et il y a aussi un autre texte qu'on n'entend pas souvent, c'est l'expression « royaume des cieux ». Jésus emploie tantôt l'expression royaume des cieux ou royaume de Dieu. On conclut donc que le royaume de Dieu est dans les cieux et non pas sur la terre. Bon, c'est pareil là, c'est une erreur d'interprétation qui vient d'une méconnaissance totale de la tradition juive, parce que à l'époque de Jésus, on évitait, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, dans le monde juif, d'employer le nom de Dieu pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et c'est la raison pour laquelle on disait « royaume malchut ha-shamayim », le royaume des cieux, ça veut dire le royaume de Dieu, tout simplement. C'est exactement synonyme de royaume de Dieu. Bon. Pourquoi à l'époque de Jésus, dans les milieux pharisiens notamment, employait-on l'expression « royaume des cieux » plutôt que « royaume de Dieu » ? Non seulement parce qu'on ne voulait pas prendre le nom de l'Éternel en vain, mais aussi parce que c'était une réaction anti-zélote. Les zélotes, vous savez, étaient un parti politique, si on peut dire, politico-religieux, n'est-ce pas, juif, qui pensait que c'était un péché que d'accepter une autre souveraineté que celle de Dieu sur le peuple d'Israël. Israël était le peuple de Dieu, et par conséquent, il ne devait être soumis qu'à Dieu. Et accepter le joug romain, par exemple, c'était un péché, parce que Israël était le peuple de Dieu. Et par conséquent, il fallait secouer le joug romain par la force pour qu'Israël devienne vraiment le royaume de Dieu. Et les pharisiens s'opposaient à cette pensée en disant que ce n'est pas comme ça que viendra le royaume. Le royaume viendra si Israël se repent. Et vous trouvez ça chez Jésus et chez Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et dans son grand discours aux villes impénitentes, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits au milieu de Tyr et Sidon, elles se seraient repenties depuis longtemps, prenant le sac et la cendre. Bon. Les signes que Jésus fait, les miracles, sont le signe que le royaume s'est approché. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et face à ces signes, il faut répondre par la repentance. Et si l'on se repent, alors le royaume de Dieu viendra. Il viendra du ciel, non pas de la terre, non pas par les efforts des hommes, non pas par la violence, non pas par l'épée, comme le prêchent les zélotes, mais par un miracle de Dieu, par une action souveraine de Dieu. Et Jésus était très violemment anti-zélote, si on peut dire, contrairement à ce qu'ont prétendu un certain nombre de gens, de théologiens, le professeur Oscar Kuhlmann qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Jésus et les révolutionnaires de son temps », où il démontre combien Jésus était opposé aux zélotes. Et c'est d'ailleurs en cela, parce que Jésus se rendait compte que les zélotes étaient en train de gagner du terrain dans le peuple, n'est-ce pas, qu'il pouvait dire Jérusalem, il a prophétisé la ruine de Jérusalem parce qu'il s'est rendu compte que les zélotes allaient prendre le contrôle du pays. Et donc son appel à la repentance, ses appels à la repentance, étaient aussi donc une manière de s'opposer justement à la vision des zélotes. Et par conséquent, royaume des cieux est une affirmation anti-zélote dans la bouche de Jésus, et non pas du tout, comme le pensent un certain nombre de théologiens, l'idée que le royaume ne sera que dans les cieux. D'ailleurs, la prière du Notre Père nous montre exactement la même chose. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus, d'une manière très claire, annonce qu'un jour, le royaume, qui est effectivement pour l'heure dans les cieux, sera établi aussi pleinement sur la terre. Bon. Donc ici, le système amillénariste est tout à fait à côté de la plaque. Même chose, évidemment, en ce qui concerne Israël, puisque le royaume ne sera jamais établi, finalement, sur la terre. C'est l'idée, contrairement aux affirmations de Jésus. Alors, Israël n'est plus rien. l'amillénarisme est le système qui est le plus anti-juif, anti-judaïque, si vous voulez, de tous les systèmes. D'ailleurs, si aujourd'hui l'amillénarisme est en plein essor dans bien des milieux, y compris évangéliques, c'est justement, c'est un système vicieux, c'est un cercle vicieux finalement. On abandonne le prémillénarisme parce qu'on est contre Israël, et on adopte l'amillénarisme qui fait qu'on est encore plus contre Israël à partir du moment où on a adopté cette vue. Alors c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est ainsi qu'on apprend, quand on lit les écrits des amillénaristes, qu'Israël n'a aucun droit sur son pays. Par exemple, c'est un certain Allen, qui était un chef de file de l'école amillénariste au milieu évangélique, qui en 1945, notez la date, c'est très intéressant, et se penchait sur le problème juif, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il concluait que le problème juif venait de ce que les Juifs avaient rejeté Jésus. Et que malgré le fait qu'ils avaient rejeté Jésus, ils avaient l'audace, le culot, de continuer à se voir comme un peuple à part, destiné à régner sur le monde lorsque le Messie viendrait. Allen était complètement déconnecté de la réalité, comme souvent c'est le cas de bien des théologiens chrétiens qui ne connaissent pas le judaïsme de leur temps, qui voient le judaïsme au travers de l'idée qu'ils en ont en lisant le Nouveau Testament, et même pas de ce qu'il était, mais de l'idée qu'ils s'en font en lisant le Nouveau Testament. Il oubliait une seule chose, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des Juifs avaient abandonné la foi, toute foi, et que la plupart d'entre eux n'avaient absolument aucune envie de régner sur le monde. Ils ne demandaient qu'une seule chose, un petit coin de terre quelque part dans le monde où on puisse les laisser vivre tranquilles. C'était la seule chose qu'ils demandaient. Il oubliait aussi une deuxième chose, c'est que le problème juif n'était un problème que pour les non-juifs et pas pour les juifs. Ça. Alors, pour lui, les juifs n'ont d'autre espoir que de rejoindre l'Église. La persécution d'Hitler n'avait pas du tout cette motivation. Ils étaient persécutés parce qu'ils étaient juifs, un point c'est tout. Et alors, Allen disait, il faut choisir ou offrir aux juifs une patrie, donc la Palestine, ou le salut, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas leur offrir les deux. Alors nous répondons pourquoi pas. Pourquoi ne peut-on pas offrir aux Juifs et une patrie terrestre, et finalement, bien sûr aussi, le salut qui est en Jésus-Christ. Il est évident que le système d'Allen est marqué par l'antisémitisme, et que l'amillénarisme conduit tout droit à l'antisémitisme. Et on pourrait montrer que l'amillénarisme d'Augustin est ce qui a conduit justement à l'antisémitisme médiéval. Même chose en ce qui concerne l'apologue de l'Olivier en Romains 11. Il y a quatre événements qui doivent marquer la parousie. L'appel des païens, la plénitude d'Israël, la grande apostasie, la tribulation et la révélation de l'Antichrist. Bon, ça c'est son système. Mais, nous dit Allen, et c'est toujours le grand motto des amillénaristes, comme des post-millénaristes d'ailleurs, les prophéties de la restauration d'Israël dans l'Ancien Testament doivent être lues à la lumière du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous emmène du terrestre au céleste, du matériel au spirituel, du provisoire au permanent, etc. Donc, lire littéralement les prophéties de l'Ancien Testament, c'est revenir en arrière. C'est court-circuiter le Nouveau Testament. Or, justement, prenons la gageure que nous propose Allen. Lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Nous allons voir justement tout à l'heure ce qu'il faut penser de cette affirmation, mais faisons-le un instant. Or, nulle part le Nouveau Testament ne nous dit que les prophéties de l'Ancien Testament ne s'accompliront pas. Bien au contraire. Quand Jésus dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par toutes les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, il confirme ce que les prophètes ont écrit avant lui. Quand Jésus dit, quand les apôtres demandent « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Contrairement à ce que dit une certaine théologie, Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël. Il dit simplement que les apôtres n'ont pas à en savoir les temps et les moments. Mais d'une manière implicite, il confirme qu'effectivement, un jour, le royaume d'Israël sera bien rétabli. On pourrait prendre d'autres textes qui vont absolument dans le même sens, notamment justement dans les paraboles du royaume. Or, selon l'auteur, selon Allen, l'Ancien Testament lui-même exige qu'on fasse de lui une interprétation symbolique et spirituelle. C'est très intéressant, mais notre brave Allen n'apporte aucun texte qui aille véritablement dans ce sens, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. C'est une pétition de principe. Il croit discerner dans l'Ancien Testament cette nécessité de le lire de cette manière. Alors il prend quelques exemples. Bon, chez les prophètes, dans les psaumes, Sion, Jérusalem, la fille de Sion, c'est symbolique. Parfait, tout à fait d'accord, c'est symbolique. Mais symbolique de quoi ? De l'Église ? Absolument pas. C'est symbolique du peuple d'Israël tout entier. Par conséquent, ici, les soi-disant symboles et la soi-disant lecture symbolique qu'Alain croit devoir faire de l'Ancien Testament nous renvoient au littéralisme de l'Ancien Testament. Quand il y a des textes symboliques dans les prophéties, ils nous renvoient au littéralisme en fin de compte. Bon, évidemment, il fait grand cas de Galates 4, verset 26, la Jérusalem d'en haut contre la Jérusalem d'en bas. Bon, de toute façon, nous avons déjà vu ce point-là, nous n'y reviendrons pas. Nous avons vu que la Jérusalem d'en haut n'est pas l'Église. Ça, c'est... L'Église est une partie de cette Jérusalem d'en haut, mais elle n'est pas toute la Jérusalem d'en haut. Apocalypse 3, verset 12, « Promet aux vainqueurs » qu'ils auront le nom de la Jérusalem nouvelle sur leur front. Donc là aussi, ça n'a rien à voir avec l'Église, n'est-ce pas ? Il n'est pas dit que l'Église est la nouvelle Jérusalem. L'Église sera dans la nouvelle Jérusalem, mais la nouvelle Jérusalem dépasse évidemment le cadre de l'Église. Même chose en Apocalypse 22, verset 9. Bien, également selon 1 Pierre 2, verset 9, nous nous rendons compte que les Juifs croyants remplissent aujourd'hui la mission d'Israël. Et que, par conséquent, ici, c'est une lecture tendancieuse que de l'étendre à l'Église dans son ensemble. Pour Allen, les textes de Romains 11, notamment, ne traitent pas de la reconstruction nationale d'Israël. C'est vrai, mais c'est sous-entendu. Il est évident que tout au long de ce texte, c'est quelque chose qui est sous-entendu, parce que, Paul nous dit une chose très claire, les appels de Dieu sont sans repentance. Les promesses de Dieu sont sans repentance. Et Paul affirme d'une manière très nette que les promesses, qu'il ne cite pas tant elles sont évidentes, eh bien, s'accompliront bien un jour. Écarter d'un revers de la main l'Ancien Testament, c'est ignorer cette masse d'évidence-là. L'idée qu'on ne peut pas déduire le millénium de l'Ancien Testament, c'est complètement aberrant. Parler comme ça, c'est complètement aberrant. Mais même si c'était, ce ne serait pas un argument en compte, comme l'a montré le professeur Flusser. Professeur Flusser tonnait quand on lui présentait ce qu'il appelait des arguments a silencio, alors il sortait de ses gonds. Et là, une colère de Flusser, j'aime autant vous dire que c'était une tempête de force 6 sur l'échelle de Richter. Il avait intérêt à foncer dans les abris à toute vitesse. Et donc, il disait, un argument à silencio n'est pas un argument. Parce que demain, quelque chose peut venir combler ce silence et nous montrer que c'est l'inverse. En fait, ce que les amillénaristes rejettent, c'est l'aspect juif de cette doctrine. Ils sont déterminés par un anti-judaïsme, pour ne pas dire un antisémitisme, séculaire et millénaire, on pourrait même dire, de l'histoire de l'Église. Par exemple, Allen reconnaît qu'une interprétation littérale de l'Ancien Testament implique la résurrection d'Israël, ce qu'il ne veut pas. Blocher aussi reconnaît que Dans une perspective juive, une telle lecture est légitime, mais qu'elle ne l'est pas dans une lecture chrétienne. On ne voit pas très bien pourquoi. Enfin, voilà, c'est le genre d'argument que l'on donne. Or, nous disons avec force que nous n'avons aucune obligation de suivre des traditions d'hommes si elles se révèlent être une erreur et si elles se révèlent contraires à la parole de Dieu. Alors on apprend ainsi, en lisant Allen toujours, qu'Israël est le figuier maudit, thème classique de l'antisémitisme chrétien, qu'il faut faire la différence entre la lettre et l'esprit, aussi, vieux poncif, vieille tarte à la crème qu'on retrouve partout. Et en fait, on ne peut pas, comme l'a dit Frédéric Godet, quand il commentait ce texte, n'est-ce pas, qui n'a pas la lettre n'a pas l'esprit. L'esprit n'affranchit pas de la lettre. Alors on apprend aussi que les promesses faites à Israël ont soit été accomplies en Jésus, par Jésus, ou abolies. Il n'y a pas d'argument biblique dans ce sens-là. C'est juste des pétitions de principe, n'est-ce pas ? Et le pays de Canaan devient le ciel. Bon, et par conséquent, revenir à la foi dans l'accomplissement littéral des prophéties, eh bien c'est revenir au judaïsme, c'est judaïser, c'est revenir au nationalisme juif. Et l'on sait, depuis l'Inquisition, la Sainte Inquisition, n'est-ce pas, que le plus grand péché que puisse commettre un chrétien, c'est de judaïser. Alors, horreur, n'est-ce pas? Donc, il nous faut évidemment être amillénaristes, c'est la seule position valable pour ces gens-là. Et il n'y a donc pas de régénération nationale d'Israël. Et Dieu continue, comme il a toujours fait, de rassembler les élus d'Israël dans l'Église, ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que soit atteint le nombre des élus d'Israël. Autrement, nous dit Allen, Paul se contredirait. On ne voit pas très bien dans quoi, il ne le dit d'ailleurs pas, n'est-ce pas ? Et comme c'est opaque tout son raisonnement, eh bien, on est dans le domaine des affirmations totalement gratuites. Alors pour d'autres, tout Israël, c'est l'Église. Tout Israël sera sauvé, ça veut dire toute l'Église sera sauvée. C'est par exemple ce que pensait Calvin, qui était un amillénariste. N'est-ce pas ? Bon, on voit ici combien on jongle avec les mots. Car si justement Israël signifiait les Juifs, ça voudrait dire qu'il y aurait un avenir pour Israël. Ce que justement les amillénaristes ne veulent pas. Mais justement, c'est là la pointe du passage dans le texte de Paul. Tout le but de Paul, c'est de démontrer justement qu'Israël a un avenir. Et en niant cela, on rend nul tout ce que Paul veut dire dans son texte. Paul montre que s'il y a une partie qui est mise à part, alors c'est le gage qu'un jour l'ensemble sera sauvé. C'est ça que veut dire l'apôtre Paul. Mais, et c'est la conclusion d'Allen, Dieu en a fini avec les Juifs. Voilà. Tout est dit, il n'y a plus rien à ajouter. Donc, si vous voulez, si nous voulons résumer brièvement les principales thèses de l'amillénariste, nous trouvons ceci, c'est que, comme Israël et l'Église sont une seule et même réalité, l'histoire d'Israël devient en fin de compte celle de l'Église. L'amillénarisme est le système qui fait le moins de place à Israël, car contrairement au post-millénarisme, il ne croit pas au salut national d'Israël. Même si en fait les deux systèmes sont très proches. Et le millénarisme ne reconnaît même pas les aspects temporels de l'alliance avec Israël. À l'inverse du post-millénarisme, où certains pensent qu'Israël peut encore, malgré tout, avoir un avenir. Il n'y a donc pas la moindre place pour Israël aujourd'hui. Les Juifs croyants ne sont que des membres de l'Église et ils n'ont plus rien à voir avec le peuple d'Israël, Ce sont les amillénaristes qui ont fait le plus grand usage de la spiritualisation. Et pour eux, l'avenir d'Israël n'est que jugement, celui de l'Église n'est que gloire. Comme ça, au moins, c'est très simple. Je crains, hélas, qu'ils se trompent beaucoup. Je ne suis pas certain que l'avenir de l'Église ne soit que gloire. Quand on voit l'état glorieux dans lequel est l'Église aujourd'hui, on peut en douter. Enfin, Allen écrivait ça en 1945, et bon, c'était un peu mieux peut-être, mais même si c'était peut-être pas extra. Voilà, donc nous en avons fini avec l'amillénarisme. Avant d'entamer le prémillénarisme, qui pour nous est la seule doctrine véritablement établie sur l'Écriture. Bien, le prémillénarisme, c'est une idée selon laquelle le Seigneur revient avant le millénium, conformément à ce que nous trouvons dans l'Écriture et dans Apocalypse 19 en particulier. Les prémillénaristes croient aussi que le millénium est déjà évoqué dans l'Ancien Testament et ils font une différence entre Israël et l'Église. Ils croient que le règne millénaire, et comme nous le trouvons chez les prophètes, un règne de paix et de justice, comme l'a toujours cru Israël, et comme finalement l'ont cru les premiers chrétiens. C'est très intéressant de noter que, par exemple, Irénée de Lyon, 175 après Jésus-Christ environ, Irénée de Lyon s'en prenait à ceux qui, déjà de son temps, combattaient le millénium, et qui allaient jusqu'à dire que les apôtres s'étaient trompés quand ils affirmaient le millénium, parce qu'ils étaient encore prisonniers des superstitions juives. Déjà en 175 après Jésus-Christ, on disait ça. Et Irénée de Lyon disait que ces gens-là n'avaient aucun droit de corriger, de lire l'Écriture par-dessus l'épaule des apôtres, c'était son expression, pour corriger justement ce que les apôtres avaient reçu du Saint-Esprit. Que si les apôtres avaient dit quelque chose, eh bien ce qu'ils disaient était absolument normatif. Et il est certain que les premiers chrétiens étaient prémillénaristes. Au IIe siècle, on a commencé à polémiquer contre les montanistes, qu'on appelait aussi kyliastes, ça veut dire millénaristes en grec. Kylia, ça veut dire mille. Et donc là, il y a eu déjà des controverses à ce sujet. Par exemple, Justin Martyr déclare dans son dialogue avec le juif imaginaire Tryphon, avec lequel il a une disputation imaginaire, c'est la première disputation juive-chrétienne qui nous soit parvenue, il déclare, n'est-ce pas, qu'il y a encore aujourd'hui de son temps, c'est-à-dire aussi donc, oui, à la fin du IIe siècle, après la révolte de Bar Corba, à peu près la même époque qu'Irénée finalement, disait qu'il y a encore qui croient dans le millénium. Lui n'y croit pas, mais enfin, il considère que c'est une vue qui est valable. Enfin, ça montre que déjà, le chrétien d'origine païenne qu'il était avait aussi déjà pris pas mal de champs, comme beaucoup de chrétiens d'origine païenne, de cette idée qui était une superstition juive, d'après ce qu'il nous faut croire. Eh bien, alors, la durée de ce temps varie. Dans ce sens que certains y voient un chiffre symbolique dans les 1000 ans. Mais la plupart des prémillénaristes prennent les 1000 ans au sens littéral et considèrent qu'il sera véritablement un règne de 1000 ans, comme c'est le cas d'ailleurs en général dans la tradition juive également. Alors la grande idée par rapport par exemple au post-millénariste, c'est que ce règne de paix et de justice sera instauré non par le progrès ni par les efforts des hommes, y compris par les chrétiens, mais par des événements catastrophiques. Pardon. Ça, c'est justement l'idée de base. Dieu lui-même instaurera ce royaume après une période de jugement qui sera marquée par des catastrophes terribles qui manifesteront la colère de Dieu sur les hommes. Alors, une des grandes raisons qui conduit encore aujourd'hui nombre de chrétiens à rejeter le prémillénarisme, c'est qu'il fait une place trop grande à Israël. Et que faisant une place trop grande à Israël, il diminue d'autant la place de l'Église. Voilà, si vous voulez, c'est tout le débat. Tout le débat, finalement, post-millénarisme à millénarisme contre prémillénarisme tourne autour de la question d'Israël, en fin de compte. crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et on accuse les chyliastes, on accusait déjà les chyliastes à l'époque d'Irénée et de Justin, d'accorder une trop grande place à Israël. L'idée que le Messie sera le roi d'Israël à la fin, qu'il instaurera une paix universelle de nature politique finalement, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, n'est pas acceptable. Et même si l'Écriture prend soin d'ajouter que l'Église aussi règnera avec le Messie. Ils régneront avec le Messie pendant 1000 ans, c'est écrit du noir sur blanc. Mais l'Église ne veut pas partager ce règne ni cette autorité avec Israël. Elle veut cette autorité et ce règne pour elle et pour elle seule. Et c'est ainsi, par exemple, que certains écrivent « Nulle part il n'est dit en Romains 11 que, pardon, il n'est dit que Romains 11 sera accompli dans le millénium. » Et non. Eh bien, alors, quand ce sera accompli? Si ce n'est pas accompli dans le millénium, je voudrais bien qu'on m'explique quand ce sera accompli. Alors, certains disent « Certes, Israël a un rôle réduit à jouer dans ce temps, mais à la fin, il sera absorbé par l'Église. » On revient toujours à ça. Certains vont jusqu'à dire que le Messie n'avait strictement aucune intention d'établir un royaume politique lors de sa première venue, mais instaurer le royaume dans les cœurs, c'est ce que nous disions tout à l'heure, et qu'il sera... C'est un royaume qui est offert à tous, mais que chacun se détermine. Bon, c'est pas entièrement faux, mais enfin, c'est trop limité. Pour les prémillénaristes, évidemment, Israël a une grande importance, et ça a été le mérite de Darby qui a eu bien des démérites en dehors de celui-là. Ça a été le mérite de Darby et de Scofield de ressouligner l'importance d'Israël. Maintenant, évidemment, la critique que l'on peut faire à ces hommes, c'est que, justement, ils ont, peut-être par réaction contre les autres systèmes, insisté d'une manière peut-être un peu trop forte sur la discontinuité entre l'Église et Israël. Et la discontinuité entre les deux testaments. Bon, tout ça, c'est un équilibre subtil. Entre l'ancienne et la nouvelle alliance, il y a continuité. Mais il y a aussi discontinuité. Bon, tout est dans l'équilibre. L'idée de base de Scofield, c'est qu'à la fin, Israël se tournera vers Dieu et par conséquent, réintégrera tout son héritage spirituel, mais aussi matériel, et donc son pays. Les nations seront contraintes de servir Israël et se convertiront à sa foi en Jésus le Messie. Et c'est ça qui est difficilement acceptable. Dans l'avenir, Israël sera le peuple de Dieu et le salut qui est à venir est le salut d'Israël qui passera à toutes les nations par l'intermédiaire d'Israël. Scofield constate avec raison qu'il n'y a pas de prophétie claire de l'Église dans l'Ancien Testament. Ça, c'est absolument indiscutable. Et que l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament, s'occupe essentiellement d'Israël. En tout cas, c'est vrai en ce qui concerne la prophétie. Parmi les chefs de file de l'école prémillénariste, outre Scofield et Darby, il faut nommer un certain Lassor, qui était aussi un Américain, en deux mots. Là, plus loin, S-O-R, Sor. La Bible constate Lassor, présente Israël comme quelque chose qui appartient à Dieu d'une manière personnelle. Et il n'est donc pas possible d'identifier l'Église avec Israël. Et alors il s'oppose à cette idée qu'on trouve par exemple chez Allen, l'interprétation de Genèse 11, où il nous est dit ceci, Abraham deviendra un grand peuple. Je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Goy Gadol. Et tu seras le père d'une multitude de Goyim. Alors, nous dit Allen, dès le départ, il n'y a pas de différence entre Israël et les nations. Abraham deviendra le père d'un goy et de goyim, donc le pluriel. Et finalement, dit Allen, le but de Dieu, c'est la création d'un homme nouveau, tel qu'on le trouve défini dans Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, à partir des Juifs et des Païens, donc l'Église, de telle sorte qu'il n'y a plus de distinction entre Israël et les nations, et qu'au temps de la fin, il ne subsistera que la seule famille humaine rachetée. Voilà. Ça, c'est le système qu'on trouve à peu près partout. Seulement, quand on lit le texte de la Genèse, on se rend compte que cette interprétation-là ne tient pas. Et qu'au contraire, Dieu fait une différence entre le goy, qui est le mot peuple tout simplement, que deviendra Israël. Le mot goy n'a pas encore le sens qu'on lui donne aujourd'hui dans le judaïsme moderne, ça veut dire du non-juif, n'est-ce pas ? Mais l'Assor, finalement, constate que les amillénaristes lisent trop de choses dans un seul texte. Et que ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, au contraire, que Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui un peuple qui sera un peuple mis à part. D'autre part, pour l'Assor, la raison pour laquelle Israël n'est pas l'Église et ne se confond pas avec elle est christologique. Que Israël et l'Église ont des vocations voisines, c'est vrai, mais pourtant qu'ils ne se confondent pas. Et que l'homme nouveau, qui est créé dans Éphésiens à partir des Juifs et des Païens, est quelque chose qui est différent d'Israël, puisque Paul dira ceci, « Ne soyez en scandale ni à l'Église, ni à Israël, ni aux Juifs, ni aux Païens. » Donc, Paul constate que de son temps, l'humanité est divisée en trois catégories, les Juifs, les Païens et l'Église. Par conséquent, la naissance de l'Église ne fait pas disparaître l'identité d'Israël. Paul appelle Israël, dans toutes ses épîtres, aussi bien les Juifs qui croient en Jésus que ceux qui n'y croient pas. Alors vous me direz, il y a le seul texte de Romains 9. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël, mais justement, tous ceux qui sont Israël, Paul ne leur nie pas qu'ils sont Israël, mais ils ne sont pas Israël dans le sens qu'ils n'ont pas répondu à la vocation d'Israël. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils cessent de l'être. Paul fait la différence là entre le royaume physique et le spirituel. Mais même cet Israël-là n'est pas assimilé avec Paul par Paul à l'Église. Il n'est qu'une partie de l'Église, mais il n'est pas toute l'Église. Donc Israël et l'Église sont deux entités distinctes pour lesquelles Dieu a un plan quelque peu différent, bien que voisin. Et c'est vrai que dans l'état éternel, l'Église et Israël auront un même destin, mais quand on lit Apocalypse 7 en particulier, on peut se demander s'ils seront pour autant confondus. Il est intéressant de noter que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a à la fois le nom des 12 apôtres de l'Église, mais aussi le nom des 12 patriarches. Comme si, eh bien, il y avait cette entité qui restait, et n'importe comment, qui, si quelque chose doit être absorbé, si une entité doit être absorbée par l'autre, est-ce que c'est Israël qui est absorbé par l'Église, ou est-ce que c'est l'Église qui est absorbée par Israël, dans la mesure où l'état final, c'est la Nouvelle Jérusalem, où nous retrouvons les caractéristiques, justement, de ce qui avait été promis à Israël. Alors, là aussi, on peut mettre un point d'interrogation. Les prophéties de l'Ancien Testament, dit l'Assor, peuvent être lues de deux manières. D'abord d'une manière littérale. Et il nous dit, il ne faut jamais oublier la manière littérale. Quand on a fait ça, effectivement, on peut ensuite, si l'on veut, spiritualiser et appliquer à l'Église un certain nombre de ces prophéties-là, mais en prenant bien garde de dire qu'il s'agit là, justement, d'une allégorisation et d'une spiritualisation. Par conséquent, que ce n'est pas le véritable sens. Alors, qu'on interprète l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, oui, mais à condition de ne pas ignorer l'Ancien Testament dans son contexte. Et sans oublier l'origine des textes. Ça me paraît très sage et ça me paraît tout à fait fondamental. Interpréter par le Nouveau Testament, ça veut dire quoi ? Ça veut dire interpréter les prophéties dans leur accomplissement dans le Messie. Voilà. Ce qu'a fait Jésus, ce qu'ont fait les apôtres. Ce que Paul déclare quand il dit que Jésus est la fin de la Torah. Alors, on interprète tout en disant « Ah, ben donc il met fin à la Torah, tant qu'on la met de côté, on la brûle, on n'en a plus besoin. » Mais le mot « telos » en grec signifie le but. Comme on dit, à quelle fin faites-vous ça ? Dans quel but ? Et il faut traduire non pas le Messie est la fin de la Torah, mais il est le but de la Torah. Ça change tout. Et la sœur nous dit aussi une chose intéressante, c'est qu'on veut souvent ignorer que le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament comme une application et non pas comme une interprétation. Interpréter signifie qu'il faut laisser le contexte de côté. Tandis que pour les auteurs du Nouveau Testament, ce n'est pas une interprétation de l'Ancien Testament qu'ils font, c'est une application. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète. Ce n'est pas une interprétation du tout. C'est une application. Voilà ce qui est écrit et voilà ce qui s'est accompli. Donc ceci est l'accomplissement de cela. Car à quoi servirait l'Ancien Testament s'il ne pouvait pas être compris par lui-même ? On est à ce moment-là exactement dans la situation des Mormons ou des témoins de Jéhovah qui nous disent que la Bible ne peut pas être comprise sans le livre de Mormon. Ou sans les interprétations des témoins de Jéhovah. Et avec raison, je dis avec raison, les Juifs font aux chrétiens ce reproche. Vous tordez le sens de nos Écritures. Ils ont raison. Ils ont mille fois raison. Car si le Nouveau Testament change le sens de l'Ancien, ça veut dire que soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament n'est pas crédible, dans un raisonnement de pure logique. Autre point, justement, qu'avance la sœur, c'est le problème de la Nouvelle Alliance. Et il pose la question, à partir de Jérémie 31, avec qui la Nouvelle Alliance a-t-elle été conclue ? La réponse de Jérémie est très claire. « Voici, dit le Seigneur, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » C'est clair. Jamais il n'a été dit « Je ferai avec l'Église une alliance nouvelle. » Non, « Je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alors nous dit Allen et tous les amis de Lénaris, non, c'est pas Allen, c'est un certain Lode qui dit ça. Enfin, c'est aussi quelqu'un de cette école, disons. Lode nous dit, oui, mais ce passage-là a été réinterprété par le Nouveau Testament pour s'appliquer à l'Église. Et il cite Hébreux 8, où il est écrit que cette nouvelle alliance rend l'ancienne obsolète. Mais quand on lit attentivement Hébreux 8, la seule chose qui nous est dite, c'est que cette alliance ancienne a été remplacée par la nouvelle, mais non pas qu'elle a été conclue avec quelqu'un d'autre qu'avec Israël. Elle nous dit simplement que l'ancien système des sacrifices n'est plus valable, c'est la seule chose qui nous est dit. Mais non pas que cette alliance n'a pas été conclue avec Israël, c'est tellement loin de la pensée de l'auteur qu'il écrit justement à dire, on oublie qu'on écrit à des Juifs. Justement, pour éviter de penser qu'il s'agit de juifs, on a changé le terme de juif par hébreu. Ça fait moins juif. C'est gênant. Et c'est le frère Stern qu'on a rencontré en Israël, Christine était avec nous, hein, qui dans son Nouveau Testament a écrit ceci, sa traduction est écrite, donc épître aux Juifs messianiques. Mais il n'a pas, il a pas lésiné. Bon, c'est un peu fort, je trouve. Mais il a raison. Il a fondamentalement raison. C'est beaucoup plus parlant, n'est-ce pas? Bien. Alors maintenant aussi, la source, on prend avec à l'idée que le baptême des enfants a remplacé la circoncision. Alors ça, là aussi, c'est quelque chose qui est très, très fort pour lui, Colossiens 2, verset 11. Bon, il constate d'abord que c'est l'unique passage où la circoncision est plus ou moins assimilée avec le baptême. Mais Paul ne dit pas dans ce texte que le baptême est l'antitype de la circoncision. Au contraire, Paul précise que la régénération précède le baptême, que c'est une une identification à la mort et à la résurrection de Jésus, et que, en fait, le baptême suit la circoncision du cœur et ne la remplace pas. Et la sœur nous dit ceci, de manière très juste, et ça me paraît convaincant. Dieu n'a fait d'alliance qu'avec Israël. C'est tout. Si l'on accepte l'alliance avec Noé, à partir d'Abraham, les seules alliances que Dieu a conclues, c'est avec Israël. Alors les païens, eh bien les païens, par un acte souverain de la grâce de Dieu, sont inclus dans l'alliance qui a été faite avec Israël. La nouvelle alliance a été faite avec Israël, et dans sa grâce, Dieu a permis que comme les branches de l'olivier sauvage branchées sur l'olivier naturel, tu aies une greffe étrangère. Et si jamais tu branches, comme ils ont branché, ce qu'a bien compris Calvin d'ailleurs, n'est-ce pas ? Eh bien toi aussi tu seras retranché comme ils l'ont été. Et avec d'autant moins, comment dirais-je, de miséricorde, que justement, toi, tu es un élément étranger dans cette alliance-là. Alors, la plupart des théologiens de l'alliance sont évidemment partisans du baptême des enfants, ça nous l'avons vu, justement parce qu'ils font une assimilation avec la circoncision. Mais il y a aussi des baptistes qui croient en cette théologie et des gens qui sont donc de tradition baptiste, pourrait-on dire. Les prémillénaristes font aussi une différence entre l'Église et le royaume. Pour eux, ces deux réalités ne se confondent pas. Pour eux, le royaume est à la fois présent et futur. J'emploie d'ailleurs le mot « règne » plutôt que le royaume. C'est vrai qu'il y a d'abord création d'une entité sur laquelle Dieu règne. C'est l'Église. Mais il y a trois étapes de la concrétisation de ce royaume. Le domaine actuel, qui est le domaine du salut individuel, où des individus acceptent volontairement le règne de Dieu, ça veut dire l'autorité de Dieu sur leur vie. Ça, c'est le salut, c'est l'état actuel. Deuxièmement, le millénium, qui sera ce règne de Dieu, étendu à toute créature de manière autoritaire, et c'est la différence avec aujourd'hui, ce règne il n'est que volontaire, pendant le millénium il sera autoritaire, il l'épêtera avec une verge de fer, et puis enfin le royaume éternel dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais, disent les prémillénaristes, sans une étendue, sans, comment dirais-je, un espace, parler de royaume n'a pas de sens. Et par conséquent, parler de règne ou de royaume, il y a différentes significations dans la Bible. D'abord, il y a l'affirmation que Dieu règne. Dieu règne sur toute chose. Dieu est le roi de l'univers. Il est le roi de la création. Ça veut dire qu'il la dirige. Il dirige sa création. Elle n'échappe pas à son contrôle. Il la contrôle totalement. Et quand les psaumes disent « l'Éternel règne », c'est dans ce sens-là. C'est une réalité présente, et c'est aussi une réalité qui sera encore plus forte dans le futur. Deuxièmement, le règne du Seigneur, c'est aussi Israël lorsque le Seigneur appelle Israël. Israël est le peuple de Dieu, le peuple sur lequel il règne, par l'intermédiaire de son roi, de son oint, de son Messie, si j'ose dire. Troisièmement, depuis la venue de Jésus, c'est ce règne volontaire qui est accepté par ceux qui se tournent vers Jésus dans la foi et qui acceptent que le Seigneur, par l'intermédiaire de Jésus, soit le roi de leur vie, dirige leur vie, qui ne veulent plus diriger leur vie eux-mêmes, mais laisser le Seigneur, au Seigneur le soin de les diriger. Il est celui qui règne sur eux. Et dans ce sens, l'Église, c'est vrai, est déjà un avant-goût du royaume, et c'est pourquoi il est question de l'évangile du royaume, est déjà le noyau, un des noyaux du royaume. Et puis enfin, donc, le royaume qui est à venir, nous l'avons vu, avec le millénium et le règne éternel. Bien, maintenant, il y a un autre problème aussi, et ça, les prémillénaristes patouillent pas mal. Bon, c'est la fameuse parabole des vignerons. Il y a deux textes, la parabole des vignerons et la parabole aussi des conviés. Parabole des conviés, vous savez, où Jésus donc parle du roi qui avait fait des noces pour son fils, les conviés qui n'ont pas voulu venir. Bon, il envoie chercher donc tous les aveugles, les mendiants, etc. Bon, et la conclusion est celle-ci. C'est pourquoi le royaume, les fils du royaume seront jetés, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, et les fils du royaume, ils se mettront à table avec Abraham et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et les fils du royaume seront jetés dehors. Donc, l'interprétation de la parabole apparaît très clairement. Les invités, c'était les Juifs. Ils se refusent d'entrer dans le festin. Donc, le roi envoie chercher des gens qui ne sont pas dignes, en quelque sorte, d'entrer dans ces gens-là, qui sont les païens. Bon. Ça, l'interprétation de cette prophétie est très claire, c'est vrai. Mais les fils du royaume, donc, les juifs, tous les juifs seront rejetés et il ne restera que les païens. Voilà la conclusion à laquelle on arrive. Ça, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. C'est vrai qu'il y aura une bonne part des juifs, et notamment des juifs de l'époque de Jésus, qui ayant refusé en toute connaissance l'évangile, eh bien, n'y auront pas part. Ça, c'est une évidence. Et leur faux pas, comme dira l'apôtre Paul, permet à des gens qui n'y avaient pas droit, les païens qui viendront de l'Occident, du Nord, du Sud, etc., se mettront à table avec les patriarches. Bon. Or, qui sont les patriarches ? Des goïms ou des juifs ? Les prophètes ! Et les prophètes, quoi ? C'est des zoulous, sûrement ? Ou c'est des javanais ? Bon. Et les apôtres, eux ? C'est aussi sûrement des Tchadiens ou bien des Chiliens, des Patagonais sûrement. Bon. Alors, on voit bien que cette interprétation-là ne tient pas. Deuxième parabole, c'est la parabole des mauvais vignerons. Vous connaissez le roi qui envoie ses serviteurs chercher le fruit de la vigne. Les vignerons refusent, ils tuent, ils battent les envoyés. Et finalement, le roi envoie son fils. Et quand les vignerons voient venir le fils, ils disent, voilà l'héritier, tuons-le, l'héritage sera à nous, il le tue, etc. Bon. Alors Jésus pose la question à ses auditeurs, que fera le maître de ces vignerons ? Ben, il viendra, il les mettra en pièces, etc. Bon. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit, la pierre qui a été rejetée, etc. Jésus cite. C'est pourquoi, alors voilà, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera le fruit. Alors, l'interprétation de la prophétie est claire. Les vignerons, c'est le peuple d'Israël. Et donc, le royaume va leur être enlevé et donné à une nation qui en portera le fruit, l'église des païens. Voilà, ça c'est l'interprétation traditionnelle qui traîne partout. Il y a deux petits problèmes par rapport à cette interprétation. C'est que personne ne dit ce qu'est le royaume et ce qu'est la vigne. Et puis deuxièmement, il y a une phrase aussi de Jésus sur laquelle on passe, on glisse rapidement. C'est que les pharisiens et les sadducéens murmurent contre Jésus, mais n'osent pas rien faire, parce qu'ils craignent la foule, car la foule avait compris que c'était pour eux, c'est-à-dire pour les pharisiens et les sadducéens, que Jésus avait dit cette parabole. Très intéressant, on ne s'est jamais posé de savoir qu'est-ce que la foule avait compris. Si l'interprétation, la première, était bonne, le royaume sera enlevé à toute la nation d'Israël. La foule ne faisait-elle pas partie de la nation d'Israël ? Or, la foule a compris manifestement d'une manière différente de nos braves théologiens. Elle a compris que la parabole était dirigée contre les pharisiens et les sadducéens. Et maintenant, si nous reprenons la parabole en dehors de toute idée préconçue, qu'est-ce que nous voyons ? La vigne. Bon, la vigne, Ésaïe 5. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, etc. Le plan qu'il chérissait, quelle était-elle ? C'est toute la maison d'Israël, dit le prophète. Parler de la vigne à une foule de juifs qui connaît l'écriture, c'est évidemment dire la vigne c'est Israël. Dieu a planté une vigne, son royaume, sur laquelle il règne. Et cette vigne, il l'a affermée à des vignerons. Ça veut dire que ce sont les chefs d'Israël. Les vignerons, ce n'est pas le peuple d'Israël tout entier. Ce sont les chefs du peuple. Justement, les pharisiens et les sadducéens. Qui a persécuté les prophètes qui sont symbolisés justement par les méchants ouvriers, les envoyés du roi? Justement, les vignerons, les chefs du peuple. Qui va tuer le fils pour pouvoir posséder l'héritage, continuer à régner sur l'héritage? Pourquoi les chefs du peuple ont-ils livré Jésus? L'écriture est parfaitement claire, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Parce qu'ils ne voulaient pas justement perdre leur influence sur le peuple. C'est très clairement dit. Alors, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et c'est pourquoi le royaume, le règne, la domination sur le peuple d'Israël, c'est ça, ça veut dire le royaume. Votre domination sur le peuple vous sera enlevée, à vous les sadducéens et les pharisiens, et sera remise à un peuple qui en donnera du fruit. Eh oui. Quelle est cette ethnée qui en rendra le fruit? Pourquoi Jésus a-t-il, pensez-vous, institué 12 apôtres? Pourquoi 12? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 13? Même après la mort de Judas, il a fallu en rajouter un 12e. À cause des 12 patriarches qui représentent les 12 tribus. Et Jésus dit à ces mêmes apôtres, vous serez assis sur 12 trônes pour juger, ça veut dire pour diriger, les 12 tribus d'Israël. Très clair. Alors, disons, les apôtres, ça représente l'Église. Oui, d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël est rejeté pour autant. Ça veut dire que, en tout cas, la partie juive de l'Église dirigera Israël au dernier temps et en apportera le fruit. Et la sœur nous dit ceci, nous dit, si Israël avait cru en Jésus, il aurait pu abattre Rome, non pas par les armes, comme pensaient les zélotes, mais par sa moralité supérieure. Si Israël s'était repenti, et le royaume des cieux serait venu, seulement il y aurait eu un drame terrible. C'est qu'il n'y aurait pas eu de païens qui seraient sauvés à ce moment-là. Et là, nous pouvons redire l'expression d'Augustin pour la faute d'Adam. Et nous la disons pour le faux pas d'Israël, Félix culpa. Bienheureuse faute. Bienheureux faux pas. qui a retardé la venue du royaume jusqu'à nos jours, et qui a permis justement aux païens que nous sommes d'entrer dans cette alliance conclue avec Israël, et par conséquent d'avoir part au salut qui avait été destiné à Israël, mais qui est offert aussi en Jésus maintenant, grâce au faux pas d'Israël, à toutes les nations. Voilà ce qu'on peut dire, on va s'arrêter là pour ce soir.